Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et ce matin, à 9h20, nous accueillons Pascal de Bruckner, qui est essayiste, pour ce livre, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, aux éditions Grasset. Bonjour.
Bonjour.
Oui, merci d'être avec nous, Pascal Bruckner. Alors, vous êtes cash, on vous a déjà entendu et vu depuis quelques jours dans différents médias. Donc, vous suscitez aussi des critiques, on va en parler tout ça. Vous mettez sur un même pied le néo-féminisme, l'antiracisme et le discours décolonial qui ont fait de l'homme blanc, dites-vous, le responsable de tous les malheurs du monde. Avant d'y revenir et de voir si c'est une réalité ou exagération, quelques mots, Pascal Bruckner, sur l'actualité du moment avec la déclaration d'Emmanuel Macron au site Brut, qui estime qu'il y a trop de contrôle au faciès, et il est revenu sur, évidemment, des personnes de couleur blanche qui sont un peu moins contrôlées que les autres. Qu'est-ce que ça a suscité chez vous quand vous avez entendu cette déclaration du chef de l'État ?
Je pense que c'est assez vrai, d'ailleurs je le dis dans le livre, Je pense que dans certains quartiers, il faudrait freiner les contrôles au faciès, mais je pense qu'il ne faut pas non plus confondre complètement le racial avec le social, c'est-à-dire que ce sont souvent les gens les plus pauvres qui sont contrôlés et les gens les plus aisés le sont beaucoup moins. Donc la caractéristique française, c'est de ne pas tout ramener à la couleur de peau, contrairement aux États-Unis. Je trouve que sur ce plan-là, nous sommes beaucoup trop obsédés par le modèle américain et nous ne savons pas revenir à nos valeurs républicaines, qui sont des valeurs universelles et pour qui la couleur de peau, l'origine, la croyance sont inessentiels. Et donc, c'est un peu ce que je critique dans mon livre.
Oui, c'est ça. Alors, vous, l'intellectuel qui avait connu mai 68, qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire ce livre, L'homme blanc coupable presque parfait ?
D'abord, parce que j'ai écrit un livre très proche il y a longtemps.
Oui.
Vous étiez tout jeune à l'époque.
Ouais. Et ouais. Moi
de même, le sanglot de l'homme blanc.
Oui.
Et je pense qu'effectivement, nous sommes passés d'une idéologie tiers-mondiste qui considérait l'Occident comme étant l'oppresseur du monde pour des raisons politiques et économiques, à une idéologie racialiste, où alors on fait de l'homme blanc dans sa totalité, de Vladivostok à Valparaiso, le coupable parfait de tout ce qui va mal dans le monde, au moment même où ceux qu'on appelle « les blancs » entre guillemets sont démographiquement moins nombreux que d'autres, et surtout au moment où le rôle de l'Europe et des États-Unis décline dans le monde, puisque les puissances montantes, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est donc tous les pays d'Asie. Et je trouve qu'il y a là un appauvrissement du discours et surtout un retour à ce que nous avons bien connu en Europe dans les années 30, c'est-à-dire l'obsession de l'épiderme, l'obsession de la race, la réduction des êtres humains à leurs conditions de naissance, à leur couleur de peau. Et je pense...
Mais est-ce que vous n'exagérez pas là un petit peu l'homme blanc ? Parce que quand vous dites l'épiderme, tout de suite, et les années 30, bien sûr, vous faites référence après, par la suite, en fait, aux juifs. Et une comparaison entre blanc et juif, là, vous n'allez pas un peu trop loin ?
Je ne vais pas trop loin puisque cette comparaison est faite aux États-Unis où les juifs sont considérés comme étant des oppresseurs parce que trop blancs pour ceux qui s'estiment persécutés. Et cette idéologie est en train de venir en France puisque elle a été notamment formulée par un professeur d'histoire, Enzo Traverso, qui estime que les juifs ont passé la ligne de couleur et que leur tragédie, c'est qu'ils ont blanchi avec la création de l'État d'Israël, qui est devenu un État colonial, et avec leur aisance financière et économique, et que par conséquent, ils sont désormais à mettre dans le même sac. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que le racisme anti-blanc dégénère très souvent en antisémitisme pur et simple.
Mais est-ce que ce n'est pas attaquer les gens pour ce qu'ils sont plutôt que ce qu'ils font ?
Voilà, exactement. Ben là, vous avez mis le doigt sur le problème, c'est-à-dire que à partir du moment où on réduit les individus, hommes ou femmes, à leur couleur de peau, au lieu d'envisager leurs conditions sociales, leur position de pouvoir, ils sont coupables d'être, tout simplement, d'être nés, et alors on rétablit quelque chose qui ressemble beaucoup au péché originel. Alors, aux États-Unis, c'est vrai qu'être blanc, c'était pour toute la pensée de gauche et d'extrême gauche, c'est une faute, et cette idéologie est en train de venir en France. Regardez, par exemple, le dernier livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, qui aussi constamment entre la condamnation de ce qu'il appelle la pensée blanche, c'est-à-dire le colonialisme, l'impérialisme, l'esclavagisme, et puis les blancs en général, qu'il synthétise en une seule formule, comme si tous les blancs étaient coupables, comme vous l'avez dit, d'être nés tels. Or, ça, c'est la définition même du racisme. Et raciste, quiconque en veut à une personne pour ce qu'elle est de naissance. Puisque c'est
Mais ce qui est le cas aussi pour les Noirs, vous êtes d'accord ?
C'est le cas, évidemment, c'est le cas pour absolument tout le monde. Mais ça n'est pas la peine, au nom d'antiracisme, de reproduire les défauts qui existaient déjà auparavant.
Oui.
Je ne vois pas où est le progrès.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait un abus de langage en même temps ? Parce que toutes les personnes en fait, de couleur ne sont pas dans cette culture racialisée, racialiste.
Bien sûr, non, ce que je dis simplement, ce que j'étudie là, dans ce livre, c'est un discours.
Oui.
C'est un discours qui a été importé des États-Unis et qui a trois aspects. L'aspect néo-féministe, donc l'homme est coupable par nature, c'est un tueur de par son anatomie. C'est ce que j'appelle le despote couillu qui, donc, quoi qu'il fasse, même lorsqu'il veut être bon avec les femmes, les agresse et les violente. Ensuite, c'est l'homme et la femme blanche qui sont coupables d'être tels. Et puis, dans le discours décolonial, ce qu'on explique, c'est qu'il faut décoloniser l'Europe de l'intérieur pour qu'elle disparaisse petit à petit et qu'elle, puisqu'elle n'expira jamais assez le péché du colonialisme.
Oui, c'est une revanche, en quelque sorte, c'est une revanche aussi de certaines personnes qui ont été victimes quand même de on ne peut pas le nier ça non plus, Pascal Bruckner, non ?
Alors, il y a deux
Notamment
choses.
Notamment chez les femmes, mais chez les personnes de couleur aussi, quoi. Oui.
Chez les femmes, oui. Alors, est-ce que le féminisme a comme but, la question qu'il faut poser,
c'est
la revanche et le ressentiment. Donc, est-ce qu'il faut faire payer aux hommes d'aujourd'hui les fautes ou les crimes des hommes d'hier ? Donc, est-ce que tout garçon qui naît sur Terre est coupable du simple fait d'être un garçon ? Alors, auquel cas, on rentre dans une guerre des sexes et alors on n'est plus du tout… Là aussi, dans un contexte français, qui était un contexte de conversation entre les hommes et les femmes, mais on est dans un contexte d'affrontement irréductible. Et c'est ce que dit un peu Alice Coffin quand elle dit qu'elle veut éliminer les hommes de l'esprit des femmes.
C'est-à-dire alors que c'était pour réconcilier les femmes et les hommes, à la base.
Non, elle, c'est, non, non,
non,
elle,
non, non
c'est pour...
je veux dire le féminisme. Le but est de
réconcilier les hommes et les femmes. Alors, c'était pour réconcilier les hommes et les femmes en abandonnant le machisme, le sexisme, et en montrant aux hommes qu'ils ont tout intérêt justement à se débarrasser d'une virilité toxique qui les handicape. Et je crois que ça, c'est tout à fait recevable. Maintenant, ce nouveau féminisme est un féminisme belligérant, c'est-à-dire qu'il porte la guerre, et tout homme est a priori suspect, et sauf s'il se repent, il ne peut pas être pris en considération puisque l'un des axiomes du féminisme contemporain, c'est de dire aux femmes, vous ne devez plus faire votre vie avec les hommes puisque tout homme est un agresseur et vous devez désormais considérer que l'hétérosexualité, et c'est un songe mauvais du passé et qu'il faut aller vers une sororité universelle. Je crains que beaucoup de femmes ne soient pas tout à fait d'accord avec cela, sans parler des hommes.
Oui, allez, on va poursuivre la conversation avec vous, Pascal Bruckner. Donc, un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, dans un instant, avec vos appels, 0826-300-300, en direct sur Sud Radio.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h31 et ce matin, Pascal Bruckner est avec nous, essayiste pour ce livre, Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc aux éditions Grasset.
Oui, et Pascal Bruckner, il y a des auditeurs en fait pour vous aussi, sur votre livre et puis sur ce que vous dépeignez effectivement dans cet essai. C'est Olivier de Bordeaux qui est avec nous. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Oui. Allez-y, donc à la fois pour votre constatation et puis votre question, si vous le souhaitez,
alors,
Pascal Bruckner.
Sur certains points, je le rejoins effectivement sur la façon dont évolue la société et comment une minorité un peu qui peut être agitée monopolise l'attention. Après,
ouais.
Je rejoins un petit peu la nuance que vous avez mise, c'est-à-dire c'est vraiment un ensemble de personnes très limitées. Et pour moi, je le constate aussi sur l'évolution d'une civilisation lorsque des personnes se sont senties victimes, ils deviennent à un moment agresseurs et c'est presque inévitable inévitable comme évolution pour que ça se finisse à un moment. C'est parce qu'il y avait un manque d'expression qui a fait que on tourne maintenant dans la, à tout prix le bouc émissaire ou l'accusation de celui qui est l'agresseur. Donc je, sur certains points, je le rejoins sur l'analyse qui a été faite, avec des nuances évidemment, que ce n'est pas une généralité pour le coup. C'est vraiment une minorité.
Oui, c'est une minorité, vous dites, Olivier, en fait, quoi.
Pour moi, je ressens ça, oui. Je le ressens comme ça.
Ouais.
C'est des agitateurs, donc, mais c'est indispensable pour qu'il y ait cette expression et qu'il y ait à un moment cet assainissement.
Ouais.
Pour moi, la communauté juive l'a faite quand il y a eu les choix à exprimer, dans les années 60-70, Carswell a été le représentant de ce mouvement-là, pour qu'à un moment, Jacques Chirac, en 1995, exprime et traduise un petit peu le malaise qui était là sous-jacent. Ouais. Mais il a fallu ça. Il a fallu un moment qu'il y ait eu de la virulence pour qu'on assainisse quelque chose.
Oui. Alors pour prolonger peut-être votre réflexion, Olivier, Pascal Bruckner, c'est une minorité. Est-ce que ça mérite d'être souligné en fait à ce point-là?
Olivier a raison, c'est une minorité. C'est une minorité très active et très influente, c'est-à-dire c'est une minorité qui est aujourd'hui dominante à gauche, puisque c'est la nouvelle gauche différentialiste qui est en train de l'emporter sur une gauche plus généraliste, qui était celle de la social-démocratie classique. Mmh. Et cette gauche-là, qui est donc s'inspire de ce qui se passe sur les campus américains, est sans doute minoritaire en nombre, mais elle est majoritaire en influence, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans les grands organes de la gauche, au Nouvel Observateur, à Libération, au Monde, à Télérama, et c'est là où son caractère minoritaire, qui est indéniable, se transforme en agent d'influence très important. Et je dirais que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est que, notamment dans le domaine du féminisme, le féminisme qui était une émancipation pour les hommes comme pour les femmes, est passé de la révolution à la terreur. Et là, on voit bien que avec des femmes comme Virginie Despentes, Pauline Hermange ou Alice Coffin, on est dans la phase de la terreur où tout homme qui ouvre la bouche ou essaye d'objecter, voire même, et là c'est pire encore, toute femme qui apporte des nuances dans le discours, notamment des nuances sur la relation entre les hommes et les femmes, est traitée de collabo, du patriarcat, et est renvoyé à son archaïsme. Donc, c'est un discours de rupture. Et je crois que ce qui a caractérisé le féminisme en France, c'est que ça n'est pas du tout une volonté de rupture, c'est une volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, de réconciliation à un niveau supérieur, sur le plan notamment de l'égalité, d'égalité sexuelle, égalité économique, égalité dans le travail.
Oui. Question de Cécile.
Oui, et pourtant, la France était saluée pour son universalisme, sa laïcité. Vous revenez justement sur les propos de James Baldwin, hein, c'est cet écrivain américain qui venait en France, qui se sentait en sécurité. Mmh. Josephine Baker, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que la France a été un havre de paix pour un certain nombre d'écrivains et de musiciens nord-américains, qui, chez nous, ne ressentaient pas le même racisme qu'aux États-Unis. Et Josephine Baker a des phrases merveilleuses dans les années 50, où elle explique que quand elle venait en France et qu'elle hélait un chauffeur de taxi, le taxi s'arrêtait. Quand elle allait au restaurant, les gens la servaient. Et quand elle allait à l'hôpital, les médecins l'examinaient sans la traiter de sale noire, comme on le faisait aux États-Unis. Elle a d'ailleurs été une grande résistante, et j'espère qu'un jour la France reconnaîtra son rôle en l'installant au Panthéon, au milieu des hommes et des femmes
illustres,
exactement. Oui. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que d'abord beaucoup d'écrivains nord-américains continuent à venir en France parce que ici ils sont, comme le disait James Baldwin, que j'ai connu un peu, ils sont débarrassés des béquilles de la race, c'est-à-dire on les considère pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font plutôt, et non pas pour leur apparence physique. On se moque de savoir s'ils sont noirs, homosexuels, hétérosexuels, quel est leur métier. On les trouve sympathiques ou non, mais on les accueille. Et
pourtant, on dit que la France est raciste.
Alors là, il y a des racistes en France, mais je dirais que la France est structurellement antiraciste. L'État est antiraciste par nature, puisqu'il a inscrit le principe d'égalité dans sa constitution. Ce que je trouve très étonnant, plus globalement, élargir le propos, c'est qu'on accuse les pays européens d'esclavage, d'esclavagisme, alors que c'est l'Europe qui a inventé l'abolition d'esclavage, elle n'a pas inventé l'esclavage, et on accuse les Européens d'être racistes, alors que nous avons inventé en Europe, à la suite effectivement d'une histoire où le racisme a eu un rôle important, nous avons inventé l'antiracisme. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Oui. On accuse ceux qui essayent de sortir de l'oppression ou de la barbarie, on les accuse justement des maux qu'ils tentent par tous les moyens de repousser. Et là, je trouve qu'il y a toute une génération qui est en train de tomber sur la tête.
Oui, Pascal Bruckner, en tant qu'intellectuel, est-ce que vous estimez qu'en France aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir des débats assez sereins sur toutes ces questions, tournant autour du féminisme, autour de cette guerre racialiste, éventuellement, comme vous l'avez évoqué, et qu'on agit beaucoup sous le coup de l'émotion, dans les déclarations, et qu'on n'arrive plus à donner de la perspective sur notre société ?
Si on peut débattre, on peut toujours débattre à la télévision, la preuve, nous le faisons là. Mais simplement un petit nombre de groupes minoritaires, mais très actifs, utilisent l'arme de l'intimidation et de la victimisation. Et donc, ils brandissent une sorte d'accusation maximale contre la France, contre la République et contre ses valeurs, en nous accusant de tous les maux de la terre. Et il est très difficile de répondre à cette accusation avec des arguments rationnels, puisque eux, justement, ils utilisent l'arme de l'émotion et ils nous foudroient en quelque sorte sous le coup.
Vous, ils vous qualifient de vieux réac, hein, en même temps, par exemple, pour certains.
Oui, alors ça ne me dérange
pas.
Comment
vous réagissez, d'ailleurs ?
Écoutez, je souris, mais vieux réac, c'est déjà mieux que vieux fasciste. Alors, si vous voulez, c'est des étapes. Ouais. Mais je pense que le réac du jour peut être le progressiste du lendemain. C'est-à-dire que le fait d'avoir un certain âge permet aussi peut-être de porter un regard plus distant sur la société. Parce que je remarque une chose, ces jeunes générations, d'ailleurs, les néo-féministes ne sont plus si jeunes, ce ne sont pas non plus des perdrix de l'année, pour utiliser un mot connu, elles atteignent la cinquantaine, donc elles sont en train de basculer dans le camp des seniors, mais peu importe. Ce que je remarque, c'est que cette génération qui prétend démoder complètement la génération qui l'a précédée, en revient au vieux mécanisme du bouc émissaire, de la malédiction, et c'est une sorte c'est des châtiments un peu médiévaux qu'elles appellent sur les personnes qu'elles condamnent. Oui. Donc ça n'est pas du progressisme. Pour moi, c'est une version new look de l'obscurantisme médiéval.
Oui. Bon.
Et vos appels, hein, comme tous les matins, 0826 300 300, avec Isabelle de Neuilly qui voudrait vous poser une question. Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Pascal Bruckner. J'ai lu avec grand intérêt votre livre et particulièrement votre introduction qui est remarquable. Je voudrais mettre en lumière deux idées. C'est que le racisme, qui est un échec de la relation à autrui, paradoxalement, l'antiracisme est aussi un échec de la relation à autrui. Quand on fait du blanc un esclavagiste en puissance, un sale type, on ne peut plus communiquer avec l'autre. Deuxième idée, c'est que par rapport à des idées exprimées il y a une dizaine d'années, par Pierre-André Taguieff, qui disait que l'antiracisme allait se démoder, puisque c'était une mode, il se démoderait. Je crois que vous montrez bien que l'antiracisme se démodera difficilement. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, l'antiracisme est enraciné dans la société française, dans le paysage français, pour deux raisons. D'une part, en raison de la démographie, car les nouvelles populations font beaucoup d'enfants, et deuxièmement, en raison de la baisse du niveau scolaire et universitaire, qui bientôt ne permettra plus aux gens d'argumenter et de débattre.
Vous n'êtes pas optimiste, vous êtes pessimiste.
Ah non, plutôt, oui.
Oui, Isabelle. Et est-ce que vous avez une question directe, parce que ça c'est une réflexion effectivement par rapport au livre de Pascal Bruckner, hein, et puis peut-être aussi au sanglot de l'homme blanc, le précédent ouvrage aussi.
Que j'ai lu aussi,
Et une question plus directe à Pascal Bruckner, alors qu'il vous écoute.
je ne sais pas, disons que plutôt encore une remarque, excusez-moi,
oui.
Quand il fait allusion à Richard Wright et à Josephine Baker dans ces années-là, dans les années 40, il me semble qu'ils s'échappaient au racisme à cause de leur notoriété. Moi, je suis Carteronne, hein, mon grand-père est venu d'Haïti, notre famille française était partie en Haïti juste avant la Révolution française, et je peux vous garantir que mes tantes, dans les années 30, y compris mon père, ont été victimes du racisme.
Ouais.
Alors qu'ils étaient vraiment, ils avaient une position sociale importante.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais. Pascal, oui, merci Isabelle, effectivement. Pascal Bruckner, est-ce que ça suscite une réaction chez vous de ce que disait à l'instant Isabelle, donc?
Oui, ben oui, ça suscite plusieurs réflexions.
Oui. Mmh.
Je pense d'abord que effectivement, l'antiracisme est notre dernière idéologie politique. Et on les a toutes abandonnées, elles sont toutes mortes, le socialisme, le communisme, le progressisme est en mauvais état, le libéralisme aussi, et on a l'impression que l'antiracisme, c'est le communisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'idéologie qui va triompher au XXe siècle. Simplement, s'il est indispensable, effectivement, de condamner les actes d'agression, les actes de xénophobie ou de discrimination, l'antiracisme ne fait pas une politique. C'est-à-dire, ça n'est pas un programme politique pour une nation, pour un grand pays. On ne peut pas se contenter simplement d'être antiraciste et de ne pas essayer d'offenser telle ou telle catégorie, car alors on arrive à une sorte de politique où on tente de ne vexer personne,
oui,
et de ne froisser aucune susceptibilité. Et ça ne fait pas un programme pour un peuple qui a envie d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. Et ce que disait Isabelle tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est qu'au fond, si on s'en tient à la doxa antiraciste actuelle, on a l'impression qu'il y a transmission héréditaire du statut de bourreau et du statut de victime pour tous les individus. Je vais prendre un exemple très simple. La British Library vient de prendre un arrêté où elle va interdire ou en tout cas censurer les œuvres d'Oscar Wilde et de George Orwell parce que leurs ancêtres auraient participé à la traite négrière, au commerce transatlantique, et que donc par conséquent, par rebondissement, ils en sont eux-mêmes atteints. Mais il me semble que le message démocratique auquel nous sommes tous très sensibles, c'est que la faute s'arrête à celui qui l'a commise. Vous n'êtes pas responsable des crimes de votre père s'il en a commis. Et donc, par conséquent, la liberté, c'est une page blanche qui est ouverte pour chacun d'entre nous.
Oui, dans cet exemple, vous montrez, Pascal Bruckner, que c'est aussi porté par des élites et des élites blanches, un peu comme Rosanna Arquette qui disait « Je suis désolé d'être née blanche et privilégiée ».
Voilà, c'est ça. Alors ça aussi, c'est une chose sur laquelle je voudrais insister avant d'arrêter,
ouais,
c'est que la haine des Blancs, c'est d'abord la haine des Blancs privilégiés contre eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est une sorte d'auto-flagellation que des élites, en général très favorisées, portent à l'égard d'elles-mêmes en s'affichant comme étant des êtres, hommes ou femmes de bonne volonté, prêts à s'excuser d'exister. Et je trouve qu'il s'agit là d'une comédie, nous n'avons pas à nous excuser d'être, nous avons soit à être fiers de ce que nous faisons, soit au contraire à ne pas en être fiers, mais là encore on prend le problème à l'envers, et il faut se méfier de ces contritions qui sont en réalité une sorte de manifestation d'orgueil inversé, et dont je crois très peu moi à la mauvaise conscience de Rosanna Arquette, qui se flagelle sur la place publique. Je pense que c'est simplement la démonstration d'une femme du showbiz qui a envie qu'on parle d'elle et qui dit « j'ai honte d'être blanche ». Pourquoi aurait-elle honte? Sauf si elle a commis des crimes, oui, elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle est. Nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous sommes, point.
Pascal Bruckner, est-ce que la gauche est morte?
Alors non, la gauche n'est pas morte, mais la gauche est très divisée. On voit bien qu'il y a une gauche social-démocrate classique, mais qui n'a plus de voix au chapitre.
Ou
regardez, le Parti Socialiste, elle n'a plus d'idées, le Parti Socialiste ne présente même pas de candidat, il est obligé d'arbitrer entre les écologistes d'un côté et les candidats de la France Insoumise de l'autre. Donc la gauche n'est pas morte, mais elle a pris un sérieux coup avec la chute du communisme, dont à mon avis elle ne s'est pas vraiment relevée parce qu'elle a été incapable d'articuler un projet réformateurs qui prennent en compte les exigences du marché, de la mondialisation et de la justice sociale. Donc, il y a toujours des tentatives de réélaborer un projet progressiste, qui tiennent compte aussi du changement climatique, mais pour l'instant, les gauches européennes sont en très mauvais état.
Vous, Pascal Bruckner, vous vous sentez toujours de gauche, ou alors, comme le disent certains sur les réseaux sociaux, il a basculé en fait dans l'extrême droite. On devient tout de suite, dès qu'on critique, extrême droite.
Oui, enfin bon, ça c'était un argument facile. Oui. Encore une fois, ça ne me dérange pas, parce que je peux le renvoyer à ceux qui me le
qu'est-ce que vous leur répondez? Alors oui, c'est ça, qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds que dès que l'on cherche la complexité, dès que l'on essaie d'introduire de la nuance dans l'analyse, on est immédiatement taxé d'extrême droite, de fasciste, et alors on est mis dans le même sac, on est zémourisé. Alors d'une part, moi je considère que Éric Zemmour n'est pas à jeter en totalité, je déteste qu'on le maudisse et qu'on en fasse une sorte de diable médiatique. Il faut prendre ses arguments en considération sans le
diaboliser.
Sans l'anathématiser, voilà, exactement, sans le jeter. Et d'autre part, je pense que c'est une manière pour les gens de se débarrasser des embarras qu'on leur oppose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur explique qu'ils ont tort et que leurs analyses sont trop simplificatrices, donc ils vous basculent dans le wagon nauséabond d'extrême droite, ce qui est une facilité rhétorique. Ouais. Mais c'est pas grave, il faut pas.
Mais vous restez de gauche.
Moi, je reste. Écoutez, je suis à la fois libéral sur le plan économique, progressiste sur le plan social et conservateur, puisque je pense qu'il faut effectivement conserver beaucoup de choses dans la nature et dans l'écologie. Donc voilà, j'essaye d'être une synthèse de ces trois familles politiques.
C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion.
Voilà, je suis macronien. Voilà.
Voilà. Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc aux éditions Grasset. Merci, Pascal Bruckner, d'avoir été avec nous en toute franchise, et les auditeurs également au 0826 300 300.
Et dans un instant, on vous parlera de la voiture de l'année, parce que c'est ce soir que ça se décide et se déclare. Ah. Lionel Robert sera avec nous, l'organisateur des Automobile Awards. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h53 et ce soir, nous allons révéler la voiture de l'année 2020 avec Lionel Robert qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Cécile.
Champion auto et organisateur des Automobile Awards. Donc voilà, on arrive au bout du chemin. Ce soir, c'est la révélation.
Ça y est, ce soir on saura tout, effectivement. Et malheureusement, je ne peux rien révéler à l'heure
qu'il est. Quel dommage.
Bon, mais est-ce qu'on peut encore voter ou c'est terminé? Parce qu'il
Les votes ont eu lieu au mois d'octobre. Sur tout le mois d'octobre,
précisément. C'est ça.
On est ravis. On a compté un maximum de 250 000 votants.
Ah oui, c'est énorme.
Ce qui est énorme.
Donc on est ravis de cette participation et les résultats, l'intégralité du palmarès sera révélée ce soir à partir de 19h sur YouTube.
Est-ce que c'était tendu en matière de vote justement, ou est-ce que le ou la gagnante a largement gagné?
Bon, je vais quand même vous livrer une information, un petit scoop quand même. Il n'y a pas un vainqueur, mais deux vainqueurs. Manière assez incroyable, effectivement, dans la mesure où on n'a pas voulu départager au-delà d'un chiffre après la virgule, on a deux ex-aequo à la première place en termes de pourcentage.
Alors, on rappelle aussi pour les auditeurs qu'il y avait des voitures très différentes, bien sûr. On allait des plus petites, entre guillemets, quasiment, aux plus grosses, quoi. Donc, c'est difficile de voter. Oui, aux sportifs, c'est difficile dans ces conditions de comparer des voitures, en fait, assez classiques, des petites berlines, avec des voitures sportives, quoi.
Oui, complètement. En fait, c'est un coup de cœur qui doit s'exprimer. Le public devant son ordinateur clique sur celle qui lui semble être la plus cohérente par rapport à sa propre perception de l'automobile. Et c'est vrai qu'on allait de la Dacia Sandero à moins de 9000 euros jusqu'à la Aston Martin Vantage Roadster. Enfin, c'était assez large, effectivement, le choix, complètement.
Puis vous récompensez aussi, l'innovation automobile.
De manière générale, oui, puisqu'en fait, l'événement récompense à la fois les constructeurs et les équipementiers les plus innovants, et même les start-up également, puisque la start-up automobile de l'année sera également désignée ce soir.
En tout cas, c'est à partir de 19h.
Oui. Alors, c'est à partir de 19h. Vous donnez le rendez-vous sur YouTube, c'est ça? Quelle chaîne, alors?
Sur ma chaîne, tout simplement, Lionel Robert, LR66.
Et avec un invité de choix.
Et avec un invité de choix, puisqu'Arnaud Ducret, effectivement, co-animera la remise avec moi.
Et l'acteur et humoriste, oui.
Exactement, ainsi que tout ça se passera dans le cadre somptueux de l'Automobile Club de France. Et nous avons le président de l'Automobile Club de France qui sera également avec nous.
Voilà. Bon, très bien.
En tout cas, allez-y, regardez, parce qu'il y a de très belles surprises.
Oui, et il y a
Merci
tous les...
Merci à vous.
Oui, absolument, à partir de 19h. Et on donnera quand même demain matin. On ne peut pas le donner
The
avant.
The winner
non.
is.
les deux voitures, alors, puisque j'ai cru comprendre que donc il y avait effectivement deux voitures ex-aequo. On vous redonnera tout ça demain matin dans la matinale. Merci. Hein,
merci Lionel Robert. Lionel Robert. Avec nous,
il y a une gagnante qui sera justement chez Valérie Expert dans un instant. C'est Alexandra, la grande gagnante de Koh-Lanta. Oui. Assez surprenant parce que de là où elle venait, dans Koh-Lanta, pendant un petit bout de temps, on pensait qu'elle n'allait pas aller jusqu'au bout.
Et c'est bien, on voit de plus en plus de filles gagner.
Surtout, ce qui est assez génial avec elle, c'est que, elle a gagné pour ses enfants. Elle a dit à ses deux enfants, ses deux jeunes enfants, vous allez voir, je suis pas la plus grande sportive, etc. Mais j'ai du courage, de la volonté et on peut y arriver. Et elle y est arrivée. Effectivement, ouais. C'était pas la plus grande sportive.
Tiens,
je vais peut-être m'inscrire. Moi, je vais appeler Denis Brognard.
Mais sauf que vous n'êtes pas une femme, c'est moi qui vais m'inscrire. Moi, j'ai peur d'avoir faim au bout de 5 minutes. C'est ça mon problème.
Allez.
Bon, en tout cas, on vous retrouve demain.
Oui, absolument. Dans un instant, c'est Valérie Expert, donc, et puis les débats qui vont suivre. Et donc, Alexandra, la grande gagnante de Koh-Lanta. Dédé Berkoff est sur le pont en pleine forme. Ça, je peux vous le dire, pour ce midi. Et puis, Valérie Expert et tous les autres rendez-vous, y compris les vraies voix. Yvan Cujous, qui vous donne un rendez-vous avec Francis Cabrel cette semaine.
Francis Cabrel.
Et Muriel Hermine de 21h à 22h30.
Pour
vous écouter. Écoutons-nous, on en a besoin.
Et nous, on vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. À demain, salut.